c'est vrai que c'est la Sainte-Anatole. J'aime beaucoup ce prénom Anatole. Et j'aime beaucoup Anatole France, qui est un écrivain qui m'a toujours donné l'impression qu'il regrettait de trop penser. C'est quelque chose, ça, vous savez, qui revient comme un refrain dans ses livres. Cette idée qu'il ne faut surtout pas intellectualiser ce qu'on fait dans la vie. Et il faut ni réfléchir, ni théoriser, parce que on perdrait la grâce, mais aussi la vérité. En art, comme en amour, l'instinct suffit. Voilà ce qu'il écrit. Bien que la beauté relève de la géométrie, c'est par le sentiment seul qu'il est possible d'en saisir les formes délicates. Les poètes sont heureux, il ne faut pas qu'ils disputent trop vivement des lois de leur art. Ils y perdent leur grâce avec leur innocence, et comme les poissons tirés hors de l'eau, ils se débattent vainement dans les régions arides de la théorie. Ça, c'est dans le jardin d'Épicure, et on sent bien cette méfiance pour tout ce qui relève du trop intelligent. En fait, il se méfie de lui-même. Pour Anatole France, il faut de l'élan, de la pulsion, de l'émotion, du sentiment, parce que à force de trop penser, bah, on gâche tout, à commencer par la beauté. À trop penser, on fait mal, d'un point de vue artistique, mais aussi d'un point de vue moral. Dans un autre de ses livres, encore plus intime, qui s'appelle Pierre Nosière, il a cette phrase que j'adore, parce qu'elle est encore plus radicale et encore plus désespérée. Il écrit que dans l'instinct est la seule vérité, l'unique certitude que l'humanité puisse jamais saisir en cette vie illusoire où les trois quarts de nos mots viennent de la pensée. En gros, nous dit Anatole France, et ça vaut aussi pour moi, voilà, arrête de te prendre la tête, suis ton instinct.
Boomerang.
Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui, s'est-il toujours fié à son instinct? Il est belge et cinéaste, on lui doit déjà près d'une dizaine de films tels que les très remarqués Nue propriété, À perdre la raison ou encore L'économie du couple. En juillet dernier, il présentait à Cannes en compétition son nouveau long-métrage Les Intranquilles avec Damien Bonnard et Leïla Bekhti. Une plongée dans l'intimité d'une famille qui s'aime et qui vacille. Bonjour Joachim Lafosse.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avant toute chose, qu'est-ce qu'on gagne à suivre son instinct? Là, c'est autant au cinéaste qu'à l'homme que je m'adresse.
Non, mais je trouve ça super de démarrer comme ça, parce que moi, je parlerais d'intuition, c'est-à-dire de faire confiance à ce vécu qu'on a su sentir, qu'on a su accueillir et qui fera quelque chose de nous. Je préfère l'intuition à l'instinct, mais
c'est plus juste.
Mais je comprends absolument ce que Anatole France, ce que vous venez de dire et ce que vous venez de lire de lui.
Et vous êtes du genre à suivre votre intuition.
Mais en fait, c'est très étonnant parce que bon, évidemment, le film dont je vais vous parler est celui pour lequel j'ai le plus d'affection, parce que j'y raconte une part de mon enfance que avec mon directeur photo, par exemple, avec qui je travaille depuis 6 films. Quand on a décidé de voir comment on allait, quelle forme on allait donner au film, je lui ai dit justement, laissons-nous emporter. On avait face avec nous deux acteurs comme je n'en avais jamais rencontré de ma vie, et on s'est rendu compte avec Jean-François Hensgens, on s'est dit, on les suit, on se laisse emporter. Et Damien Bonnard et Leïla Bekhti et Gabriel Merciama nous ont emportés. Il n'y avait pas de dogme, il n'y avait pas d'intellectualisme, c'est-à-dire il s'agissait de se laisser émouvoir. Et quand je retrouve depuis 3 semaines dans des avant-premières avec des salles pleines et des gens qui me disent on a aussi été avec vous l'auteur de quelque chose qui nous regardait, qui avec lequel on, dans un film avec lequel on peut amener aussi notre histoire, ça rejoint aussi toutes les raisons pour lesquelles je fais du cinéma, c'est-à-dire quand j'étais petit à la maison, on parlait très peu de ce qui se passait et de ce que ma mère vivait avec mon père et tout ça. Et finalement, quand il y avait Kramer contre Kramer à la télé, le film nous permettait de parler de nous sans dire que c'est nous. Et quand j'ai compris ça à 20 ans, jeune adulte, c'est là que j'ai décidé de faire du cinéma. Mais quand le public, après un film, vient vous dire, vous savez, j'ai connu quelqu'un qui a vécu ça, moi, c'est une joie incroyable.
Cette idée de contrôle et de lâcher prise, Joachim Lafosse, elle est centrale dans Les Intranquilles, puisque vous nous racontez, on va le dire tout de suite, l'histoire d'une famille qui perd le contrôle, qui perd l'équilibre. Cette histoire, il faut nous expliquer.
Et qui tente l'engagement, surtout.
Oui.
Je crois ça. Leïla Bekhti, elle m'a dit, quand je lui ai fait lire le scénario, elle m'a dit, écoute, je te jure, je vais te convaincre de le faire, de me prendre dans le film, parce que les deux personnages, je les adore, ces deux personnes. Enfin, c'est elle qui me disait, voilà, tous les deux luttent pour préserver leur singularité. Elle tente le coup, elle tente l'histoire d'amour, la rencontre amoureuse avec lui. Je parle pas du coup de foudre ou de la lune de miel, ça c'est un peu simple. Elle tente la rencontre, c'est-à-dire que ils sont à un moment de leur vie où ils ne peuvent plus cacher leur fragilité, leur défaillance.
Il faut expliquer quand même.
Peut-être,
oui. Le personnage joué par Damien Bonnard est bipolaire.
Absolument. Mais c'est pas le sujet du film, j'ai l'impression. La question, c'est-à-dire, dans cet engagement, au moment où on a vu l'autre, parce que ça pourrait être l'alcoolisme, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être... Quand il y a une défaillance dans une famille, dans un couple, jusqu'où on peut aller? Et comment on fait?
Damien, Joachim Lafosse, qu'a-t-il fallu pour que vous puissiez enfin, plus de 35 ans après, la raconter, cette histoire?
Je pense que... À l'âge d'Amine, le petit garçon du film, un jour ma mère m'a dit, voilà, écoute, on va se séparer avec ton père, je l'aime encore, mais la maladie c'est trop dur. Et en fait, plus tard, je me suis rendu compte que cette phrase et que mes parents m'avaient, par leur histoire, transmis quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire une interrogation sur ce que c'est que l'engagement amoureux. Et pendant longtemps, j'en ai voulu à ma mère parce que je lui disais, mais pourquoi tu m'as pas dit que tu ne l'aimais plus? Ça aurait été plus simple. Ou pourquoi tu m'as pas dit que tu allais rester avec lui parce que tu l'aimais? Et en même temps, j'étais, en tant qu'enfant, j'étais à une très bonne place pour être le témoin des difficultés qu'elle rencontrait.
Ouais.
Mais il a fallu longtemps, des années pour ne plus les juger. C'est-à-dire pour pouvoir faire un film et raconter cette histoire de manière à ce que le spectateur n'ait pas à choisir entre l'un et l'autre.
Oui, c'est ça.
Mais surtout, de manière à ce que, quand on se retrouve face à des acteurs aussi incroyables et aussi investis que ceux que j'ai eu la chance de rencontrer avec Damien Bonnard et Leila Becti, il fallait que je sois prêt à laisser revenir toutes les émotions qu'ils réactivaient. Et ça, je pense que sans la psychanalyse, je n'y serais pas arrivé.
Mais ce que vous dites aussi, Joachim Lafosse, c'est assez intéressant, c'est que faire un film, d'ailleurs c'est faire une œuvre d'art, hein, c'est justement accepter de se détacher de son histoire.
Mais on rejoint Anatole France, c'est-à-dire que le cinéma est un art inouï parce que c'est un art collectif. C'est une somme d'artistes qui se rassemblent autour d'un scénario, et puis qui chacun, si, en tout cas moi c'est comme ça que j'aime travailler depuis toujours, j'essaye de stimuler chacun de mes partenaires.
Ouais.
Et chacun vient y apporter quelque chose. En plus, quand on a la chance, quand on a la chance de pouvoir répéter pendant 15 jours avant le tournage, en fait, ce film-là, on l'a rejoué dans son entièreté avant de le tourner, à la manière de René. Et finalement, ça permet, chacun y vient. Il faut du temps pour se rencontrer, en fait. Il faut donner du temps aux rencontres. Tout va trop vite, ça va très vite aujourd'hui, tout va trop vite. Et là, avec ces 15 journées ensemble avant de tourner, on y vient chacun. Et quand au bout de 5 jours de répétition, Damien et Leila me disent, tu sais quoi, on va appeler les personnages Damien et Leila. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais la proximité que j'avais avec ce que j'essayais de raconter, c'était pas simple. Et quand Damien et Leila me disent, on va appeler les personnages Damien et Leila, je suis moins seul à essayer de raconter ça.
Ce que vous partagez, en fait, Joachim Lafosse, si vous me permettez, ce sont des émotions. L'émotion, à quoi ça tient dans une image de cinéma, pour vous?
Je sais pas, c'est une énigme.
Un échange de regards, je me disais.
Absolument.
Peut-être. À des peaux qui se touchent.
À un rythme. Mais justement, à nos histoires qu'on tait, à la pudeur qu'on a et à la manière dont on essaye de quand même faire ensemble.
C'est ça la beauté d'une image de cinéma?
Mais pour moi, c'est une énigme. Mais il faut travailler pour... au moins on en sait, au plus il faut y aller. Et c'est pour ça que c'est magnifique.
C'est vrai qu'il y en a une dans cette émission qui n'est ni dans la beauté, ni dans le magnifique, ni dans l'émotion d'ailleurs. Vous la connaissez évidemment, c'est la culture. Et son actualité aride, sèche et vole. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 24 septembre?
Hollywood nous berne, Hollywood berne, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns.
Fin de l'éclipse solaire, il était venu nous en parler lui-même à ce micro après 20 ans de démêlés judiciaires. Le pionnier du rap MC Solaar ressort enfin ses 4 premiers albums, piliers du hip-hop à texte des années 90. Après Qui sème le vent récolte le tempo, mis en ligne cet été, c'est le classique Prose Combat qui est réédité aujourd'hui, porté par les morceaux Nouveau Western ou Obsolète. L'album daté de 1994 et produit notamment par le duo Cassius est enfin disponible partout en ligne. Prochaine étape, la réédition en décembre des disques paradisiaques et MC Solaar.
Aujourd'hui, cette langue, elle est à nous. C'est pour ça que je vous disais que la langue française d'aujourd'hui est devenue une langue africaine.
La francophonie en folie ce week-end à Tunis. La langue se délie et la ville accueille une trentaine d'essayistes, poètes et romanciers pour débattre de ce que cela signifie aujourd'hui d'écrire en français. Au programme Identité, Diversité, Vitalité, Sensibilité de la langue, on pourra y croiser des écrivains venus des cinq continents, de Leïla Slimani à Beata Umumbeï Meres, en passant par Alain Mabankou ou Kamel Daoud. Ce congrès mondial annonce le grand sommet de la francophonie qui se déroulera en novembre prochain à Djerba, en Tunisie. Oui.
Mais vous avez un type qui est raciste, mais ça ne fait pas un film sur le racisme. Chaque fois que tu vois un film avec un fond de guerre, c'est pas un film sur la guerre.
Sweet Sweet Melvin, en VF s'il vous plaît, le réalisateur et auteur Melvin Van Peebles est mort mercredi, il avait 89 ans, pionnier de la Blaxploitation et auteur du film indé Sweet Sweet Bags Badass Song, sorti en 1971. Il restera l'une des références majeures pour toute une génération de cinéastes hollywoodiens, de Spike Lee à Barry Jenkins en passant par Tarantino. Ancien de l'US Air Force, proche en France de la rédaction d'Arakiri et de l'excentrique Roland Topor, il avait contribué à poser les bases d'un cinéma conscient pour la reconnaissance des œuvres et des artistes noirs américains dans l'Amérique du XXe siècle. Big up! Enfin, plus de musique, moins de tragique. Ce week-end, partout dans le monde, le méga show Global Citizen Live propose 24 heures de concerts non-stop pour lutter contre le réchauffement climatique, vaincre la pauvreté, la faim et réclamer l'équité en matière de vaccins. Organisé par l'ONG Global Citizen, l'événement réunira en live et en visio les plus grands artistes, de Kylie Minogue à Jennifer Lopez en passant par Billie Eilish, Metallica ou Ed Sheeran. À Paris, c'est Sir Elton John en personne qui assurera le show, gratuit et ouvert à tous sur le Champ de Mars, la classe. Et le cinéaste Joachim Lafosse, invité de Boomerang ce matin pour Les Intranquilles, en salle la semaine prochaine, l'histoire d'un homme, artiste peintre, qui, vous le disiez, hein, souffre de bipolarité. Qu'est-ce qui vous fascine, vous, dans la figure du peintre, Joachim, qu'on a souvent vu représenter au cinéma? Je pense tout de suite à La Belle Noiseuse de Jacques Rivette, avec Michel Piccoli.
Oui, ou à Van Gogh de Piala, oui. Ou Mike Lee, le Turner de Mike Lee, enfin, ce qui font partie de... Moi, je suis très admiratif. J'ai des amis peintres et j'ai eu la chance de pouvoir aller dans leur atelier, les observer travailler. C'est, y a rien à faire. C'est un autre regard, une autre manière de sentir le monde, les matières, la lumière.
C'est un geste aussi.
C'est un geste. Mais j'ai entendu chez vous Philippe Giannada parler de la spontanéité de la peinture et du fait qu'on intellectualise pas avec la peinture. On ne demande pas à un peintre de commenter son œuvre ou de commenter le monde.
Alors c'est très beau, hein, dans votre film, justement, les toiles, les couleurs, les pinceaux. Comment on met en scène un homme en train de peindre?
En travaillant avec un acteur qui a fait les beaux-arts et qui aime la peinture et qui a envie de peindre et qui pendant un mois va préparer le film avec un grand peintre anversois qui est Piet Ramdonk et qui par ailleurs va aussi à Sainte-Anne préparer le film avec des spécialistes de la bipolarité, mais je crois en admirant la peinture d'abord. Ça me paraissait impensable, comme on le voit trop souvent dans des films, de filmer une peinture que je n'admirais pas.
Ouais.
Et ça fait partie aussi de l'altérité qui fait que l'œuvre, que ce n'est plus tout à fait mon histoire.
Mais justement, quel rapport intime, pour le coup, est-ce que vous entreteniez avec l'atelier d'artiste? Je suppose l'atelier
Alors,
de votre
c'est,
père.
Oui, c'est-à-dire que mon père il est encore vivant. Il depuis 30 ans, il n'a plus été hospitalisé, il n'a plus besoin de prendre son traitement. Je le dis à chaque interview parce que je suis très fier de lui et que ça veut dire qu'il y a moyen de faire quelque chose de cette psychose. Mais en tout cas, quand j'étais enfant, il faisait quelque chose de magnifique, c'est qu'il n'y avait pas encore Internet et que il photographiait les œuvres d'artistes qui avaient besoin de catalogues, de faire voir leurs œuvres. Et donc je le voyais venir. Enfin, il accueillait à la maison des artistes belges qui venaient déposer leurs œuvres. Et puis il aimait pas travailler seul. Et alors ces artistes venaient le rejoindre. Et la nuit, il passait des nuits entières à éclairer des sculptures ou des tableaux pour en faire de belles images. Et quand je me retrouve sur un plateau avec mon directeur photo et avec Pete, en fait, je suis de nous. C'est-à-dire, je retrouve ce plaisir-là.
C'est passionnant parce qu'effectivement, j'avais l'impression que vous parliez de cinéma là. Dans quelle mesure c'est dans cet atelier, en regardant très travaillé votre père, Joachim Lafosse.
Mais c'était déjà de la lumière.
Que s'est forgé votre
c'était
regard
déjà
de
du
cinéaste.
Cinéma, oui. Ouais. Et lui était photographe. Donc c'était une image, et moi j'en fais 24. Enfin, et moi c'est 24. Mais fondamentalement, c'est le même cœur.
Regarder, c'est quelque chose qui s'apprend.
Non, je pense que ce qui s'apprend, c'est de se donner le droit de sentir. Et puis le regard vient.
Vous avez pris du temps, vous?
Oui, parce que je pensais qu'il fallait justement accélérer et éviter quand les sensations étaient trop puissantes. Alors qu'il faut justement accueillir cette intranquillité, quoi. Et ça m'a pris du temps, oui.
Il y a eu ce passage par le théâtre, pour vous, Joachim Lafosse. Oui. Quelle école de formation du regard de la sensation?
Les acteurs, que ça a été c'est le théâtre, c'est les acteurs. C'est les acteurs, c'est leur terrain. Il n'y a pas de, c'est eux qui ont le pouvoir, au théâtre.
Ça veut dire que votre cinéma doit beaucoup au théâtre?
Absolument, absolument. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est quand je travaillais pour un metteur en scène belge, Frédéric Dussen, j'étais son assistant pendant quelques années. Mais j'adorais les répétitions. Une fois que les choses étaient posées, calées, ça m'emmerdait, en fait. Mais, donc je me suis dit, là, il faut que, c'était le cinéma, mon truc.
Mais qu'est-ce que c'est un acteur, au fond? Parce que ça revient tout le temps, chez vous. Cette fascination, cette passion pour les acteurs.
Alors, on fait l'erreur de penser que les acteurs sont de grands narcisses et, je crois pas du tout. Je pense justement que, enfin, il faut s'aimer pour donner son corps comme ça et son âme à d'autres histoires, à d'autres. Moi, voilà, c'est une autre énigme qui me fascine absolument. Je au fond, il y a que la rencontre avec eux sur un plateau, je souhaiterais à tout le monde de vivre ça. C'est quelque chose d'incroyable quand tout d'un coup vous écrivez quelque chose et puis que c'est un autre visage. Quand on fait un casting, il faut pas espérer rencontrer l'image qu'on avait imaginée.
Oui, à vous entendre.
Il faut se laisser surprendre. C'est de l'altérité, le travail avec un acteur.
Et pas forcément les comprendre.
Absolument. Il faut se laisser, oui.
Pourtant, vous dites souvent que le cinéma, c'est un art de la contrainte.
Bah, c'est pas de moi, c'est de Bresson. et que c'est vrai. Mais c'est ça qui est magnifique. C'est absolument magnifique. Il faut laisser le réel venir cogner l'imaginaire et puis faire avec ça.
C'est ça qui procure, qui produit de l'intranquillité, pour reprendre le titre de votre film.
À condition de l'accepter. C'est de ne pas la craindre. J'ai demandé à Damien et Leïla, quand j'ai vu l'investissement qu'ils avaient dans le film, je ne trouvais pas ma fin, la fin du film. Mais je les voyais tellement investis qu'à un moment je me suis dit, mais c'est eux qui vont me la donner. Et je leur ai dit, cette dernière scène, quand on tournera le dernier jour, vous allez me dire ce que vous feriez, vous. Et ils m'ont donné une fin de film, jamais j'aurais trouvé cette justesse.
Ça vous échappe toujours.
Mais enfin. parce qu'ils l'ont vécu autant que moi. C'est-à-dire, cette coécriture, c'est quand même très surprenant.
Vous savez, cette idée d'intranquillité, elle m'évoque tout de suite un nom. C'est celui du peintre Gérard Garousse qui en avait parlé à ce micro. De nombre d'intranquillités que l'on retrouve dans votre film, Joachim Lafosse, qu'est-ce qui pour vous fait de l'artiste, hein, une figure de l'intranquillité aussi?
Mais je dois dire que Gérard Garousse, et je suis très heureux de pouvoir le dire ici, bon, moi, j'ai l'histoire qui est la mienne, c'est que en gros, mes parents ne se sont plus jamais vus pendant 30 ans quand ils ont décidé d'arrêter. Et quand j'ai lu L'Intranquille, j'ai lu l'histoire d'un homme qui, au fond, racontait comment sa femme a tenu le coup et comment c'était possible de se rencontrer quand même, malgré cette singularité très particulière. Et je me suis appuyé sur ce possible pour faire le film.
Parce que, il faut le dire, par ricochet sont intranquilles toutes celles et ceux qui entourent l'intranquille.
Mais c'est pour ça que je me suis permis de rajouter un S, parce que...
Qu'est-ce qu'il y a de plus intranquille chez vous?
Ça dépend. Je ne sais pas. De plus intranquille. C'est impossible de répondre à ça. C'est impossible. C'est trop intime, en fait. Enfin, voilà.
Mais peut-être.
Et puis, parfois, je découvre en même temps.
Que l'artiste est là pour en créer de l'intranquillité, Joachim Lafosse?
Ah, il suffit de l'accueillir et de la sentir. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin de l'inventer.
C'est ce que vous essayez de produire toujours.
Je suis pas sûr qu'on crée grand chose.
Mais c'est ce que vous essayez de faire.
J'essaie de plus en plus d'accepter, de laisser venir. Mais comme le public, ce que j'espère, c'est que le public et que les spectatrices, les spectateurs laissent venir le film qu'ils font avec l'auteur ou l'autrice, le cinéaste ou le cinéaste. Il y a une chose qu'on ne dit pas suffisamment, c'est qu'il y a deux auteurs à une œuvre. Il y a un des deux auteurs qui donne naissance au second. Mais le premier auteur, c'est le spectateur ou la spectatrice. La singularité d'un spectateur ou d'une spectatrice, je ne sais pas qui est le public. Par contre, je sais qu'il y a un moment, un spectateur ou une spectatrice qui vient me raconter le film qu'il a vu. Et ça, à ce moment-là, je comprends pourquoi je fais ce métier. Et quand ça arrive, c'est absolument fantastique. Parce que le cinéma nous permet de parler de nous sans dire que c'est nous. Et ça, c'est pas non essentiel. C'est absolument essentiel.
Votre sensibilité, Joachim Lafosse, c'est bouleversant. On va reparler ensemble d'intranquillité, mais aussi d'images, d'amour, juste après Jean Ferrat, dont vous me faites entendre la voix dans votre film « Mes amours » en 1962. Vous êtes sur France Inter avec Joachim Lafosse. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Mes amours, vous qui me savez des vôtres, vous qui me savez si pauvre et si nu pourtant, mes amours, la vie n'est qu'une chimère si l'amour n'y vient pas faire sa ronde d'oiseaux géants. Mes amours, moi qui ai cette fortune entre mes mains désarmées, je pense à ceux qui n'ont qu'une chanson triste pour pleurer. Mes amours, mais il faut tant de chansons, de poèmes, d'Aragon pour sauver encore le nom de l'amour. Mes amours, vous qui me savez offert, moi qui suis la bonne offerte pour votre cœur vagabond. Mes amours, la cruauté n'est qu'un leurre, n'attendez pas que j'en pleure pour partager ma chanson. Mes amours, vous et moi, c'est la conquête dans ce monde dévasté. Le soleil à la fenêtre par-dessus les cheminées. Mes amours, mais il faut tant de chansons, de poèmes, d'Aragon pour sauver encore le nom de l'amour. Mes amours, mais si vous savez m'entendre, si vous savez me comprendre, que je chante juste ou non. Mes amours, voici la terre promise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, le cœur n'a qu'une chanson. Mes amours, vous voici en terre douce, la peur a cloué son bec, toujours coulera la source sous le caillou le plus sec. Mes amours, il y a tant de chansons, de poèmes, d'Aragon, que l'on sauvera le nom de l'amour.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
Il faut que je vous le décrive parce que vous ne le voyez pas. Il a une forme de rousseur persistante qui donne un air particulièrement doux, quelque part entre l'agneau, l'enfant de cœur et le renardeau. Il a l'œil maître, le sourire bon Dieu sans confession et beaucoup d'émotion ce matin. Dans la voix aussi de Joachim Lafosse, cinéaste belge, invité de Boomerang ce matin pour ce film Les Intranquilles, en salle la semaine prochaine. Ce film centré autour d'une famille, je le disais, le père, la mère et leur enfant. Et ce qui frappe, c'est la manière dont vous parvenez à tous les faire exister, à la fois tour à tour et en même temps. La question que je me suis posée quand même, pour cet enfant qui est joué par Gabriel Mertz-Chama, petit-fils d'Isabelle Huppert, c'est émouvant quand même. Quand on regarde le monde à travers les yeux d'un enfant, qu'est-ce qu'on voit ?
D'abord, on voit Gabriel, je crois. Gabriel avec son intelligence affective, son naturel. Et je pense qu'il s'agit de préserver ça. Les plateaux de cinéma, c'est terrible en fait. Ça peut tuer l'enfant. Ça peut effacer au fond ce qui s'agit d'observer. Il y a rien de plus beau qu'un enfant qui dort. Faut pas le réveiller quand il est sur le plateau. Si dans la scène on a envie qu'il dorme. Enfin, c'est-à-dire, il faut. Moi, il y a un photographe que j'adore et qui fait les photos de sa famille depuis des années. C'est Julien Magre, un portraitiste. Et je trouve que. Ouais, il faut laisser. Faut essayer de laisser vivre ses singularités.
Quel genre d'enfant est-ce que vous étiez, vous, Joachim Lafosse ?
Je pense que j'étais très joueur. Je pense que j'étais un jumeau. Donc, non, j'étais pas très éloigné de ce que je vis maintenant.
Il y a une phrase qui m'a frappé dans le film. Il faut pas avoir honte. C'est une phrase que ne cesse de répéter le père à son fils. La honte, quel sentiment ce que c'est pour vous ?
Par exemple, il y a un film que j'ai fait, Élève libre, il y a quelques années, et c'était avant MeToo, avant tous ces grands textes, ces grandes œuvres que sont le livre de Springora, que sont
de Camille Kouchner, l'œuvre tout entière de Christine Angot.
Exactement, qui quand même Christine Angot, c'est magnifique ce qui arrive aujourd'hui, la manière dont elle a changé notre écoute et finalement on arrive à l'entendre.
Ça me touche que vous disiez ça.
Et ça, je ne sais plus pourquoi je vous parlais de ça. Bon, il se fait que
la honte,
oui, et qu'après après la sortie d'élèves libres, pendant quelques années j'ai longé les murs de honte.
Pourquoi ?
Parce que par exemple parce que le l'écoute et le regard sur le film n'étaient pas celui que toutes ces autrices ont réussi à faire entendre.
Comment on dépasse la honte ?
D'abord, de nouveau, c'est la même logique, en l'écoutant, en l'acceptant, en s'en rendant compte, en se demandant, tiens, mais pourquoi, au fond ?
Vous avez choisi un texte que vous vouliez me lire ce matin. C'est très court.
Ah oui, oui, c'est très court.
J'aimerais bien que vous me lisiez.
Oui.
C'est un texte de Julia Kristeva.
Absolument. L'état d'urgence de la vie. On n'imagine pas combien il est difficile de se tenir droite quand on est une femme avec un mari pas comme les autres, un enfant pas comme les autres, un métier pas comme les autres. Et que ces divers points d'attache sont autant d'élévation que de handicap, étant entendu que chacun de nous est pas comme les autres. On ne l'imagine pas. Julia Kristeva, Le féminin et le sacré.
Dans quelle mesure le cinéma, Joachim Lafosse, permet-il de montrer ce qu'on ne peut pas imaginer ? Justement.
Il faut essayer tout le temps. Il faut de nouveau essayer d'avoir un... Mais aussi, on n'imagine pas ce que les spectateurs voient, c'est-à-dire que c'est sans fin.
Mais ça veut dire que le projet d'un film, ça part toujours de quelque chose qui vous dépasse complètement.
J'espère et heureusement, parce que sinon... Qu'est-ce qui fait qu'on est animé pendant 2-3 ans et qu'on ne se lasse pas ? C'est cette énigme, au fond.
Mais
c'est pas... Moi, les gens qui me disent aujourd'hui « je sais comment il faut faire » m'effraient totalement. C'est je ne veux plus avoir affaire à eux.
Fuyons-les.
Ouais, fuyons-les. Et ceux qui me disent qu'ils sont absolument guéris, m'effraient encore plus.
Parce que le cinéma, c'est un outil pour poser des questions, en fait, pour réfléchir.
Peut-être même pas, pour sentir.
Quelle est la plus belle chose
pour aller ailleurs. Excuse-moi.
Quelle est la plus belle chose que vous ayez comprise, vous, grâce au cinéma ?
Qu'il nous offrait la plus belle chose du monde, c'est cette possibilité avec pudeur de parler de nous. Sans dire que c'est nous.
Se pourrait-il que le cinéma, ça sera ma dernière question, Joachim Lafosse, ait le pouvoir de nous rendre meilleurs ? C'est une question que j'ai un jour posée à deux cinéastes belges dont vous êtes, je le sais, un admirateur, et qui sont les frères Dardenne. Mm-hmm.
Je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que on a été diagnostiqué, on a tous souffert de la pandémie, mais on a tous très bien senti que à force à ne plus parler que de ça, et je parle de la pandémie et du diagnostic, et Damien Lella souffre de ça aussi, qu'à un moment il fallait qu'on parle d'autre chose, il fallait qu'on retourne voir d'autres histoires que la nôtre, et que cette chose-là allait être essentielle et pas non essentielle comme on a essayé de nous le dire. Et ça, quand je vois depuis 3 semaines des salles pleines aux avant-premières avec des gens qui tout d'un coup racontent des histoires qui sont surprenantes. Là, c'est un plaisir, mais énorme. Tout d'un coup,
ça nous rend meilleur dans le sens où ça nous fait du bien.
Déjà aussi, c'est un énorme plaisir, hein, parce que hier, je pense que les gens à l'UGC Léal, ils sont aussi heureux de tous être ensemble dans la salle et de sentir que la salle est pleine. Ça, c'est pas rien. C'est vraiment. Enfin, moi, ça, je trouve ça. Il faut en profiter de ce moment-là qu'on vit. C'est-à-dire que cette fête, bon, c'est vrai que. Il y a eu des doubles coups de massue, c'est-à-dire que c'était reparti, et puis il y a le passe, et puis ça retombe. Mais on va pas lâcher, on se retrousse les manches, on y va, et avec le désir, on va y arriver.
Et vous savez qu'on va y aller, on va tous y aller voir ce film. Merci tellement, Joachim Lafosse, d'être venu faire un tour dans Boomerang, Les Intranquilles, avec Leila Bekti, Damien Bonnard, Gabriel Mertz-Chama sort mercredi. C'est vraiment un très beau film de cinéma. Merci à vous et à toute l'équipe de Boomerang, hein. Lola Costantini, Perrine Malinge, Léonard Billot, Pierre Démé, Jérôme Humbert, Jean-Baptiste Audibert, tout de suite. Le rendez-vous de la médiatrice, c'est tous les mois et c'est juste après ça.
My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The
only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui, and I suddenly turn and see your fabulous face.
I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true? Yeah, I get a kick out of you.
Me? Some they may go for cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time.